Aujourd'hui, à Rencontre, un homme tourné vers l'essentiel, Christian Chabanis. Christian Chabanis reconnaît, à la fin de l'entrevue que nous allons vous montrer aujourd'hui, que son projet de vie, c'est de parler et d'écrire sur les questions essentielles. Or, quelles sont-elles, ces questions si importantes pour Christian Chabanis? C'est tout d'abord l'existence ou la non-existence de Dieu. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, il a interrogé plusieurs athées et réuni leurs réponses dans un livre étonnant. Dieu existe-t-il? Non. Puis, il est allé voir des croyants et il a publié « Dieu existe? Oui ». On a pu voir à Rencontre la plupart des personnes dont on retrouve les témoignages dans ces deux livres. L'autre grande question essentielle qui hante Christian Chabanis, c'est la mort. Il a donc publié en 1982 « La mort, un terme ou un commencement ». On y trouve les témoignages d'incroyants, d'agnostiques et de croyants divers. Voici donc cette rencontre avec Christian Chabanis, qui est interrogé chez lui, à Paris, par Marcel Brisebois.
Christian Chabanis, vous avez publié déjà quelques ouvrages, des entretiens sur Dieu, sur son existence, sur la mort. Comment choisissez-vous vos interlocuteurs?
Je choisis d'abord des thèmes, n'est-ce pas, au sein du thème général. Par exemple, à propos du livre sur la mort, j'ai pensé à un certain nombre de questions à poser. La mort de l'autre dans le couple, la mort de l'enfant, la mort dans le règne animal, la mort du point de vue du biologiste. Et j'ai aligné ces interrogations et ces questions. Et ensuite, j'ai mis un nom sur ces questions. Je me suis demandé avec qui je pourrais les traiter de la meilleure façon possible. Parce que rien que les questions que je viens d'aligner vous montrent que j'étais incapable de les traiter seul. La mort de l'autre dans le couple, Dieu merci, j'ignore ce que c'est. Et j'ai pensé que je pouvais en parler peut-être abstraitement, en philosophe par exemple, mais qu'il me serait difficile d'en parler concrètement, sinon avec quelqu'un qui avait perdu sa compagne ou son compagnon. De même la mort de l'enfant. Dieu merci, j'ignore ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour un père, mais ou une mère. Et c'est donc avec des êtres qui ont vécu. Alors j'ai cherché parmi les êtres que je connais ceux qui avaient vécu cette expérience, par exemple. Ou pour le biologiste, ceux qui accepteraient et qui pourraient poser cette question dans la perspective où je souhaitais la poser.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un souvent de différent, qui ne partage pas vos opinions, vos convictions? Qu'est-ce que ça veut dire rencontrer quelqu'un qui soit autre, qui soit différent?
Eh bien, je crois que tous les autres sont différents. Je crois à l'identité tout à fait particulière de chaque être. La géographie le montre très bien. Quand il nous est enjoint par l'Évangile de devenir des saints, on pourrait imaginer justement que tous les saints vont se ressembler dans des niches. Et puis quand on lit la géographie, on s'aperçoit que plus un saint devient saint, plus il est original. Au point même que quelquefois l'institution religieuse a de la peine à reconnaître la sainteté et la personne sous la forme originale qu'elle prend. Et je sais qu'un évêque humoriste, il en existe, voulait qu'on ajoutât à la litanie des saints cette ultime prière, mais ô mon Dieu, par-dessus tout, délivrez-nous des saints vivants. Parce qu'en effet, chaque fois que nous sommes appelés au plus profond de nous-mêmes, notre originalité est irréductible à aucune autre. La manifestation même de la sainteté, c'est la manifestation de l'originalité irréductible de chaque être. Alors je crois à cette identité irréductible. Et très souvent, d'ailleurs, à la suite de la publication de ces livres, de dialogues, eh bien, j'ai lu ou j'ai entendu dire « Ah, je ne savais pas qu'un tel avait cela en lui. Je n'aurais jamais cru qu'un tel serait capable de dire de telles choses. » Et ça m'a frappé parce qu'en effet, cette identité irréductible et originelle, originale, est en général camouflée. Le social invite au fond à entrer dans un moule. Je suis biologiste, donc j'obéis à la règle qui régit actuellement la biologie et l'attitude des biologistes, l'attitude publique. Je suis professeur, je suis, enfin que sais-je. J'ai une image de marque et je tenterai le plus possible d'y répondre. Et si on entre dans un dialogue profond, ce qui est mon souci, ce qui est le vôtre aussi, eh bien, il se révèle cette identité. Comme dit l'Évangile, le Christ appelait chacun par son nom. Or, vous savez que les noms dont on affuble les êtres ne correspondent que très rarement à leur identité originelle. On dit de quelqu'un, c'est un imbécile, c'est un intelligent, c'est qu'a-t-on dit quand on a dit ça? Tandis que le Christ ne les appelle ni intelligents, ni imbéciles, ni... Il les appelle de leur nom, qui fait que c'est très, très visible avec les apôtres. Ils se lèvent, mus par une force, qui n'est pas la force dont le Christ use envers eux, pas du tout, puisqu'il les appelle simplement par un nom. Ils se reconnaissent dans ce nom. Alors j'essaie, dans ces dialogues profonds, de toucher au nom radical de l'être, et il m'est apparu presque toujours que cette parole venait, n'est-ce pas, cette réponse venait.
Quels sont les interlocuteurs qui vous ont le plus marqué, le plus frappé?
Tous.
Tous.
Mais pour des raisons différentes. Je me souviens la même question posée sous une forme différente. On me disait par exemple à propos de vos rencontres avec les athées, de vos rencontres avec les croyants, lesquelles vous ont le plus touché? J'avais répondu toutes. Mais avec les athées, j'avais le sentiment de parler de quelqu'un que je connais, enfin, en qui je crois et qu'ils ne connaissent pas. Et le dialogue prenait quelquefois un caractère pathétique. Et avec les croyants, j'avais le sentiment contraire de parler ensemble de quelqu'un que nous aimons ensemble. Mais la joie ou l'intérêt était différent, mais tout de même il était égal.
Vous avez écrit par exemple un ouvrage sur ces entretiens, Dieu existe-t-il? Non. Dieu existe-t-il? Oui. Est-ce qu'il est arrivé que certains de vos interlocuteurs, qui avaient accepté que le texte soit publié, vous le dites, tous ces textes ont été présentés d'abord à mes interlocuteurs, ils ont accepté ça. Est-ce qu'il est arrivé quand même que, dans le temps, ces interlocuteurs aient changé, aient évolué?
Plusieurs.
Oui.
Roger Garaudy, par exemple, au moment où nous avons publié Dieu existe non, s'affirmait encore athée. Aujourd'hui, il se situe différemment. Ionesco. Ionesco avait d'ailleurs été choqué par le titre Dieu existe non. Parce que il disait, il m'a fait remarquer ensuite, que ça ne correspondait pas véritablement, et même déjà à l'époque, à ce qu'il aurait dit. Il se présentait plus volontiers comme agnostique que comme athée. Ses réserves n'allaient pas jusqu'à la négation radicale qu'implique l'athéisme. Mais alors, à propos de Ionesco, eh bien, depuis ces années-là, c'est-à-dire 8 ans, nous nous sommes retrouvés. Et nous nous sommes retrouvés à la même table de communion. Et je ne sais pas ce que, intérieurement, il a vécu avec le Christ, mais le résultat était que, au cours d'une rencontre, nous avons assisté ensemble à la messe, et il a communié, nous avons communié côte à côte. C'est donc que depuis, il a suivi un chemin personnel, tout à fait personnel, dans cette voie ouverte par l'interrogation que nous avions menée, un chemin personnel qui l'a conduit à rencontrer quelqu'un, avec majuscule. Ce quelqu'un dont il disait justement qu'il ne l'avait jamais rencontré, et que les mystiques, peut-être, avaient aperçu quelque chose qu'il n'apercevait pas. Alors, j'ai vu cela chez Ionesco, j'ai vu chez d'autres, que je n'ose pas nommer parce que le cheminement est encore trop mystérieux pour qu'on lui donne un nom, mais je pense à un sociologue qui m'avait dit, dans cet ouvrage sur l'athéisme, qui m'avait déjà dit, certes je suis athée, mais je me situe dans ce que j'appellerais, disait-il, le néo-athéisme, et il disait, j'ai le sens profond du mystère.
Christian Chabanis, je ne voudrais pas vous réduire à n'être qu'un auteur.
Merci.
Et je voudrais vous demander, des rencontres que vous avez faites dans votre vie, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué?
Je reprends ce que vous disiez, mais je ne suis pas vraiment un auteur. Et tout à l'heure, nous cherchions des livres. Je n'ai chez moi pratiquement aucun des livres. Je les donne parce qu'on me les demande. Et je n'ai presque aucun des livres que j'ai écrits. Et je les oublie d'une certaine manière aussitôt. Mais ce que je n'oublie pas, c'est la rencontre. Alors, les rencontres qui m'ont le plus marqué, encore une fois, toutes.
D'une non, mais manière... indépendamment peut-être de ces gens dont vous avez publié les textes, quels sont les...
Oui. Les grandes rencontres...
C'est par exemple, vous avez publié des ouvrages sur Gustave Thibon. Est-ce que c'est un homme important pour vous? En quoi est-il important?
Je vous réciterai par cœur. Nous avons échangé une très longue correspondance et nous continuons à le faire. Mais le texte d'une lettre qu'il m'écrivait quand j'avais une vingtaine d'années. Il me disait « Les sentiments d'affection sont difficiles à exprimer, surtout entre hommes. Mais je veux que vous sachiez une fois pour toutes que je me sens profondément lié à vous, non seulement par les idées qui nous sont communes, mais par ce qu'il y a de plus irréductible et de plus secret dans nos âmes. Car en vérité, je me sens très seul et vous êtes une des rares présences qui m'atteignent dans ma solitude. Eh bien, j'aurais pu lui écrire les mêmes mots. La rencontre avec Gustave Thibon a été une rencontre d'âme, comme il le dit, et une rencontre essentielle, au-delà même des idées qu'on peut partager. J'ai vu à travers lui et à travers une amitié, et je le vois toujours puisque cette amitié dure encore, j'ai vu, et le temps n'est pas indifférent à l'affaire, justement, quelle est durée, la durée dans l'amitié et joue un rôle important parce que nous avons vécu des heures différentes et nous les avons vécues ensemble d'une certaine manière. Eh bien, j'ai vu à travers cette amitié où était la réalité humaine. Alors, les grandes rencontres sont de cet ordre-là. J'ai la joie d'être, je n'ose pas parler d'une amitié, mais j'ai la joie de rencontrer personnellement chez lui le Saint-Père, Jean-Paul II. C'est de cet ordre-là. J'ai vu, bien sûr, je sais qu'il est le vicaire du Christ, et c'est ma foi qui me le dit, mais je sais aussi, et je vois, quel homme il est. Je vois comment un homme a fait entrer, par exemple, l'invisible dans son existence, et comment cette existence dépendante de l'invisible a pris cette espèce d'éclat dans le visible qui rend éclatant à tous quelque chose qui pourtant ne peut pas se définir. À travers lui, tout le monde sent qu'il existe dans une dimension infinie, sans qu'on puisse pour autant dire « cet homme est l'infini, il n'est qu'un homme ». Eh bien, une rencontre comme celle du Saint-Père, de Jean-Paul II, m'a permis aussi de vérifier que l'humain était fait pour ça. Et alors je dirais que les rencontres quotidiennes, je pense à des amis paysans de mon village natal, qui me sont très chers, qui sont des rencontres de la vie quotidienne. J'ose parler tout de même de ma femme.
Mais j'allais y venir, précisément.
Parce que
j'allais
je dois
y venir.
Dire qu'elle a. Je pense à mille moments qui me passent sous les yeux en ce moment, mais par exemple, quand, dans l'instant où elle a mis au monde, j'ai assisté aux accouchements et à la naissance de nos enfants, dans l'instant où elle a mis au monde ses enfants, j'ai vu qui était la femme, comme jamais aucun discours ne pourra me le dire. J'ai vu ce moment où elle était nous trois, n'est-ce pas? Ce moment où elle portait nous trois, elle, l'enfant et moi, en quelque sorte, dans l'enfant. J'ai vu qui elle était, et là encore, dans une dimension que seule la rencontre concrète et réelle pouvait me prouver. Mes enfants aussi sont des rencontres permanentes et quotidiennes de la vérité humaine. Je suis très sensible à la parole de l'Évangile, « Laissez venir à moi les enfants, le royaume leur appartient ». Et il appartient à ceux qui leur ressemblent. Et je suis très attentif à l'enfance. Si j'avais eu une vocation religieuse, je crois que je l'aurais consacrée à l'enfance.
Que représente pour vous, justement, votre vie de famille, votre vie de couple?
L'essentiel. L'essentiel. Je crois que c'est uniquement dans cette relation, nous parlions tout à l'heure de la dépendance. La relation familiale vécue dans la dépendance et dans l'amour, et justement le lieu de la liberté. C'est dans ce lieu que nous sommes le plus libres et que nous mesurons toute l'étendue de notre liberté. La liberté de mettre au monde des êtres, par exemple, ou de ne pas le faire, est une liberté fantastique. Quand il apparaît un être nouveau et se dire que nous en sommes les co-créateurs, on le vérifie au sein de la famille, l'éducation des enfants. Il dépend de notre attitude, quelquefois, de détruire ou de construire un être. De le construire, ça appartient à lui et ça appartient à tout le mystère de son être. Mais de le détruire, ça peut nous appartenir. On peut défaire à jamais quelqu'un par une attitude qui se place à côté de lui. Eh bien, l'exercice de la liberté dans le quotidien de la vie familiale est pour moi une des manifestations les plus profondes de notre liberté. Et j'y attache un prix infini.
Qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants?
Je citerai Timon, qui m'avait écrit à la naissance du premier: « Je prie Dieu pour votre fils, qu'il traverse le temps sans oublier l'éternité de son origine et de sa fin. » Eh bien, je prie Dieu aussi que mes enfants traversent le temps, quoi qu'il leur arrive, quoi qu'ils fassent, de bien ou de mal, sans oublier l'éternité de leur origine et de leur fin. Et j'espère que... J'ai été très frappé, souvent, par le fait que des pères et des mères qui avaient donné un exemple, mais en tout cas une éducation religieuse à des enfants, les voyaient un peu plus tard, comme ils disent, mal tournés, c'est-à-dire perdre la foi, entre guillemets. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai vu aussi des enfants, le genre dont la qualité morale est reconnue, se révolter contre eux. Alors j'ai été tellement attentif à cela et tellement sensible à cela que j'espère ne donner à mes enfants que le désir dont vous parliez tout à l'heure, que le désir de boire quelque chose d'un peu net et d'un peu grand dans leur existence. Mais je ne voudrais pas du tout qu'ils adoptent ma religion. Je voudrais qu'ils rencontrent qui j'ai rencontré, parce que je pense que c'est inévitable de le rencontrer. Je le souhaite, je l'espère, mais je ne sais pas du tout, je n'attends rien je n'attends pas en tout cas qu'ils ressemblent à ce que je suis. J'attends qu'ils ne ressemblent qu'à eux-mêmes, qu'ils aient leur propre destinée, même si cette destinée devait m'étonner, me surprendre et peut-être me faire du mal.
Est-ce que vous êtes un homme ambitieux?
Certainement. Certainement, oui. Dans quel sens?
Pour vous-même, pour vos enfants, une ambition sociale, une ambition...
Mais pas sociale, non. Très souvent, je me suis dit, encore récemment, j'ai même écrit, il n'y a pas très longtemps, sur des carnets où je note des choses, je notais, et profondément je le ressentais, n'être rien, n'être personne. N'être rien et n'être personne pour la place publique. Il arrive que je sois très gêné de... Là, je suis très à l'aise avec vous, certainement, parce que toute votre équipe et vous, la relation a été immédiate. Mais la situation publique me paraît pleine d'ambiguïté, pleine de vulgarité. Je trouve que on s'éloigne du profond de l'être à mesure qu'on devient plus un être public.
J'allais vous demander justement, vous avez une certaine vision de l'homme, vous avez une certaine vision de l'homme en lui-même, au plus profond de lui-même, dans sa relation avec les autres et en particulier dans la famille. Quel type de société voyez-vous? Est-ce que vous êtes un homme refermé sur votre foi et votre famille, votre métaphysique, vos questions, ou si vous pensez aussi qu'à partir de là, il y a une certaine, vous avez une certaine vision de la société, quelle serait cette vision?
Oui. Alors je crois que, et notre temps l'exige, notre temps a besoin de témoins. Si nous disons des choses que nous ne vivons pas, très vite, la jeunesse d'ailleurs nous le fait sentir cruellement, elle renvoie ceux qui prétendent témoigner. La place publique est devenue cruelle à cet égard, et heureusement, elle renvoie ceux qui ne témoignent pas de ceux qui le vivent. Alors, ce que j'aimerais, ce que je souhaite de toute mon âme, d'abord, c'est vivre quelque chose. Invinciblement, on le partage avec les gens qui vous entourent, dans un entourage immédiat. Et puis, invinciblement aussi, vous êtes appelé, devant le manque dont témoigne la société, à témoigner plus loin. Mais je dirais que si vous avez la volonté personnelle de le faire, et cette seule volonté, ce témoignage est inutile. Si vous vous dites, je suis ceci, je vis telle chose, je vais donc en témoigner afin que tout le monde vive la même chose ou comprenne la même chose, je dirais que c'est perdu d'avance.
Est-ce que vous voulez me dire qu'on ne peut témoigner qu'avec d'autres ?
Pas exactement. Je veux dire qu'on ne peut témoigner que si on vous appelle réellement à le faire, parce qu'on a senti que vous pouviez le faire. On ne peut témoigner que si l'appel qui vous est lancé de le faire vous dépasse vous-même. Si c'est les autres, en effet, qui vous l'adressent. Si brusquement, ils vous disent, vous avez vécu telle chose, alors dites-moi comment vous l'avez vécu. Vous avez vécu telle difficulté, dites-moi comment vous l'avez surmontée. En ce sens, alors, le témoignage mérite d'être donné. Mais si c'est de votre propre volonté et pour votre propre gloire que vous décidez de témoigner de ce que vous vivez personnellement, je dirais que le témoignage est déjà suspect, presque, n'est-ce pas ? Si c'est pour votre propre gloire, pour votre propre ambition, pour devenir un être public, je dirais que c'est perdu d'avance.
Est-ce que vous avez l'impression que l'Église actuellement témoigne vraiment de ce qu'est sa foi ?
Quelle question encore ? Je l'espère.
Et je le demande de l'intérieur.
Ah, oui. Je l'espère, mais je dois dire que dans ma propre demande à l'endroit de l'Église, car j'ai une demande, eh bien je n'ai pas toujours, il faut le dire, reçu non seulement la réponse que j'attendais, mais une réponse. J'ai quelquefois reçu des réponses bien décevantes et même révoltantes. Quand j'ai demandé, car c'est la première question que l'on peut poser à l'Église, « Dites-moi Dieu », eh bien, l'interlocuteur à lequel je m'adressais, qui représentait l'Église, ne m'a pas toujours répondu, et loin de là. Mais cependant, l'Église universelle donne cette réponse. Il suffit de chercher un peu, il suffit de regarder dans la direction de Mère Teresa, il y a une réponse. Et puis sans aller aussi loin, il suffit dans la communauté parisienne, par exemple, d'Église, il suffit d'être un peu exigeant, de chercher un peu, d'aller au-delà de certaines déceptions, et toujours la réponse pour moi est donnée quelque part. Alors, il est vrai qu'elle n'est pas donnée toujours immédiatement. Mais c'est peut-être la loi du genre.
Est-ce que vous ne seriez pas plus à l'aise comme chrétien si vous pouviez vous séparer de l'Église ?
Ah, je dirais que je ne serais plus chrétien alors. Vraiment, je ne serais pas à l'aise du tout.
Votre relation au Christ n'est donc pas de vous au Christ, elle s'insère dans une relation d'Église.
Elle est de moi au Christ, mais elle est aussi du peuple de Dieu au Christ. Je fais partie d'un peuple. Il a appelé tout un peuple, il a appelé toute l'humanité à cette
rencontre. Ça m'apparaît vague, ça m'apparaît...
Oui, pour le moment, c'est vrai. Mais je dirais que je participe de cette rencontre, de ma famille et de tous, de cette rencontre du Christ avec l'Église. Si elle était uniquement mon bien personnel, je me serais suspect à moi-même. Cependant, le premier commandement, en fait, et le second qui lui est semblable, dit bien « Tu aimeras le prochain comme toi-même ». La mesure de l'amour du prochain, c'est donc l'amour de soi-même, ce qui est assez mystérieux et une exigence assez mystérieuse. On ne peut donc pas aimer le prochain si l'on ne s'aime pas soi-même. C'est une exigence qui montre bien la part personnelle et tout à fait personnelle qu'il y a dans notre relation avec Dieu. Elle implique que Dieu nous apprenne d'abord à nous aimer nous-mêmes, donc à surmonter quelquefois la distance que nous avons envie de prendre avec nos faiblesses, avec ce que nous sommes de pécheurs et de pauvres. L'amour que Dieu nous donne de lui commence à l'amour de nous-mêmes. C'est d'ailleurs un enseignement qui est légèrement oublié aujourd'hui. L'amour de la communauté passe, et l'amour de l'autre passe par l'amour de nous-mêmes. Et l'amour de nous-mêmes ne passe pas par l'amour de la communauté. Alors en ce sens, en effet, il était un peu vague de dire que je fais partie d'un peuple de Dieu qui va à la rencontre du Christ et réciproquement. La rencontre est personnelle ou elle n'est pas. Et il est bien dit que l'autre m'apparaît dans sa vérité, dans la mesure où je me suis apparu à moi-même dans ma vérité. Alors il est vrai que j'ai besoin de l'Église pour cela, en ce sens que c'est elle qui me présente les autres dans une communauté particulière, qui me montre que l'on peut vivre ensemble cet amour que l'on vit seul avec Dieu. Alors en ce sens, j'ai besoin de l'Église, parce qu'elle me prouve ce que je disais tout à l'heure, que la rencontre est possible avec les autres dans le Christ. Je ne pourrais pas vivre sans l'Église, l'amour de Dieu. Je le sens aussi profondément.
Quel est votre projet, Christian Chabanis?
J'espère qu'il est celui de Dieu sur moi. C'est-à-dire que j'essaie de découvrir ce que... J'éprouve quelquefois de l'étonnement. Vous voyez, vous m'amenez, moi laïque, père de famille, homme qui aime la vie, à parler de choses divines et de choses qui, apparemment, devraient être réservées aux hommes d'Église. Alors je m'interroge quelquefois, je me demande, mais pourquoi suis-je amené à donner un tel témoignage? Pourquoi je ne parle pas seulement d'autres choses, de mon pays, de la Provence, par exemple, que j'aime? Pourquoi je ne parle pas de mes vacances ou de mon travail ou de l'écriture, simplement, comme certains écrivains qui ne parlent que de l'écriture et de ce que ça représente? Pourquoi, invinciblement, suis-je amené à parler de questions essentielles? Alors je me dis, c'est que certainement il y a un projet pour lequel je suis fait et qui ne dépend pas entièrement de moi. Alors mon projet, ce serait véritablement de coïncider avec cette exigence qui est en moi et qui ne vient pas uniquement de moi, de faire en sorte que toute mon existence coïncide avec cette exigence.
Christian Chabanis, je vous remercie.
Rappelons que Christian Chabanis, qui est marié et père de famille, a publié 3 ouvrages qui ont connu un grand succès. Dieu existe-t-il ? Non, paru chez Fayard. Dieu existe ? Oui, dans lequel on peut lire les dialogues de Christian Chabanis avec des croyants, paru chez Stock. Et La mort, un terme ou un commencement, paru chez Fayard en 82, et qui comprend les opinions souvent fort différentes de 21 personnes.
La première rencontre avec Guy Laboueri, commandant d'un vaisseau de guerre et chrétien à la recherche de la paix, sera diffusée mardi prochain, même heure.